Le retour du capital dans les pays riches depuis les années 1970. Afin d'illustrer la différence entre les mouvements de court terme et de long terme du rapport capital-revenu, il est utile d'examiner l'évolution annuelle observée dans les principaux pays riches de 1970 à 2010, période pour laquelle des données homogènes et fiables sont disponibles pour un grand nombre de pays. Commençons par le rapport entre capital privé et revenu national, dont nous avons représenté l'évolution sur le graphique 5.3 pour les 8 principaux pays riches de la planète, soit par ordre décroissant de PIB, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada, Australie. Par comparaison aux graphiques 5.1-5.2 et à ceux des chapitres précédents qui représentent des séries décennales, ce qui permet de concentrer l'attention sur les tendances longues, on constate tout d'abord sur le graphique 5.3 que le rapport capital-revenu connaît dans tous les pays d'incessantes variations de très court terme. Ces évolutions erratiques sont dues au fait que les prix des actifs, qu'il s'agisse des actifs immobiliers, logements et immobiliers professionnels, ou des actifs financiers, en particulier des actions, sont notoirement volatiles. Il est toujours très difficile de mettre un prix sur le capital, d'une part parce qu'il est objectivement fort complexe de prévoir la demande future pour les biens et services générés par une entreprise ou un actif immobilier donné, et donc les flux futurs de profits, dividendes, royalties, loyers, etc., que les actifs en question vont rapporter. Et d'autre part, parce que la valeur présente d'un immeuble ou d'une société dépend non seulement de ses éléments fondamentaux, mais également du prix auquel on peut espérer revendre ses biens en cas de besoin, c'est-à-dire de l'anticipation de plus-value ou de moins-value. Or, ces anticipations de prix futurs dépendent elles-mêmes de l'engouement général pour ce type d'actifs, ce qui peut naturellement engendrer des phénomènes de croyance dites auto-réalisatrices. Tant que l'on espère revendre le bien plus cher que l'on ne l'a acheté, il peut être individuellement rationnel de payer bien plus que la valeur fondamentale de l'actif en question, d'autant plus que la valeur fondamentale est elle-même très incertaine, et de céder à l'enthousiasme collectif, si excessif soit-il. C'est pourquoi les bulles spéculatives sur les prix du capital immobilier et boursier sont aussi anciennes que le capital lui-même et sont consubstantielles à son histoire. En l'occurrence, la bulle la plus spectaculaire de la période 1970-2010 est sans doute la bulle japonaise de 1990. Pendant les années 1980, la valeur des patrimoines privés s'envole littéralement au Japon, passant d'à peine plus de 4 années de revenu national au début de la décennie à près de 7 années à la fin de la décennie. De toute évidence, ce gonflement démesuré et extrêmement rapide était en partie artificiel. La valeur du capital privé a chuté brutalement au début des années 1990, puis s'est stabilisée autour de 6 années de revenu national depuis le milieu des années 1990. Nous n'allons pas dresser ici l'historique des multiples bulles immobilières et boursières qui se sont formées et dégonflées dans les pays riches depuis 1970, et encore moins nous risquer à prévoir les bulles futures, ce dont nous sommes bien incapables. On notera par exemple la forte correction immobilière en Italie en 1994-1995 et l'éclatement de la bulle Internet en 2000-2001, qui conduit à une baisse particulièrement marquée du rapport capital-revenu aux États-Unis et au Royaume-Uni, beaucoup moins forte toutefois qu'au Japon 10 ans plus tôt. On remarquera également que le boom immobilier et boursier américain des années 2000 se poursuit jusqu'en 2007, puis est suivi par une forte baisse des cours lors de la récession de 2008-2009. En 2 ans, les patrimoines privés américains sont passés de 5 années à 4 années de revenu national, soit une baisse de même ordre que la correction japonaise de 1991-1992. Dans les autres pays, en particulier en Europe, la correction a été nettement moins forte, voire inexistante. Au Royaume-Uni, en France, en Italie, les prix des actifs, notamment immobiliers, ont marqué une courte pause en 2008 et sont repartis à la hausse dès 2009-2010, si bien que les patrimoines privés se situent au début des années 2010 au même niveau qu'en 2007, voire légèrement au-dessus. Le point important sur lequel nous voulons insister et qu'au-delà de ces variations erratiques et imprévisibles des prix des actifs à court terme, variations dont l'ampleur semble s'être accrue au cours des dernières décennies, nous verrons que cela peut d'ailleurs être mis en relation avec la hausse du rapport capital-revenu potentiel. Il existe bel et bien une tendance de long terme à l'œuvre dans l'ensemble des pays riches au cours de la période 1970-2010. Au début des années 1970, la valeur totale des patrimoines privés, nets de dettes, était comprise entre 2 et 3 années et demie de revenu national dans tous les pays riches sur tous les continents. 40 ans plus tard, au début des années 2010, les patrimoines privés représentent entre 4 et 7 années de revenu national. Là encore, dans tous les pays étudiés, l'évolution générale ne fait aucun doute. Au-delà des bulles, on assiste bien à un grand retour du capital privé dans les pays riches depuis les années 1970, ou plutôt à l'émergence d'un nouveau capitalisme patrimonial. Cette évolution structurelle s'explique par 3 séries de facteurs qui se cumulent et se complètent pour donner à ce phénomène une très grande ampleur. Le facteur le plus important à long terme est le ralentissement de la croissance, notamment démographique, qui, avec le maintien d'une épargne élevée, conduit mécaniquement à une hausse structurelle et tendancielle du rapport capital-revenu au travers de la loi bêta égale S sur G. Ce mécanisme constitue la force dominante sur très longue période, mais il ne doit pas faire oublier les 2 autres facteurs qui en ont substantiellement renforcé les effets au cours des dernières décennies. D'une part, un mouvement de privatisation et de transfert graduel de la richesse publique vers la richesse privée depuis les années 1970-1980. Et d'autre part, un phénomène de rattrapage de long terme des prix des actifs immobiliers et boursiers qui s'est également accéléré dans les années 1980-1990, dans un contexte politique globalement très favorable au patrimoine privé, par comparaison aux décennies de l'immédiate après-guerre. Au-delà des bulles, croissance faible, épargne forte. Commençons par le premier mécanisme, fondé sur le ralentissement de la croissance, le maintien d'une épargne élevée et la loi dynamique bêta égale S sur G. Nous avons indiqué dans le tableau 5.1 les valeurs moyennes observées pour le taux de croissance et le taux d'épargne privée dans les 8 principaux pays riches au cours de la période 1970-2010. Comme nous l'avons déjà noté dans le chapitre 2, les taux de croissance du revenu national par habitant, ou ceux quasi identiques de la production intérieure par habitant, ont été extrêmement proches dans les différents pays développés au cours des dernières décennies. Si l'on fait des comparaisons sur quelques années, les écarts peuvent être significatifs et aiguisent souvent les jalousies et les fiertés nationales. Mais, quand on fait des moyennes sur des périodes plus longues, la vérité est que tous les pays riches croissent approximativement au même rythme. Entre 1970 et 2010, le taux de croissance annuel moyen du revenu national par habitant était compris entre 1,6 et 2% dans les 8 principaux pays développés du monde, et le plus souvent entre 1,7% et 1,9%. Compte tenu des imperfections des mesures statistiques disponibles, en particulier concernant les indices de prix, il n'est pas sûr du tout que des écarts aussi réduits soient statistiquement significatifs. En tout état de cause, ces écarts sont très faibles par comparaison aux écarts portant sur les taux de croissance démographique. Sur la période 1970-2010, les taux de croissance de la population sont inférieurs à 0,5% par an en Europe et au Japon. Sur la sous-période 1990-2010, on serait plus proche de 0%, voire légèrement négatif au Japon. Alors qu'ils sont compris entre 1,0% et 1,5% par an aux États-Unis, au Canada et en Australie. C'est ainsi que le taux de croissance global sur la période 1970-2010 se retrouve sensiblement plus élevé aux États-Unis et dans les autres pays neufs qu'en Europe et au Japon, autour de 3% par an dans le premier cas, voire un peu plus, à peine 2% par an dans le second, voire tout juste 1,5% dans la période la plus récente. De tels différentiels peuvent sembler limités, mais quand ils se cumulent dans le temps pendant de longues périodes, il s'agit en réalité d'écarts considérables, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2. Le point nouveau sur lequel nous insistons ici est que de tels différentiels de taux de croissance ont d'énormes effets sur l'accumulation de capital à long terme et expliquent dans une large mesure pourquoi le rapport capital-revenu est structurellement plus élevé en Europe et au Japon qu'en Amérique. Si l'on examine maintenant les taux d'épargne moyens sur la période 1970-2010, on observe là aussi des variations importantes entre pays. Le taux d'épargne privée se situe généralement autour de 10-12% du revenu national, mais il descend jusqu'à 7-8% aux États-Unis et au Royaume-Uni et monte jusqu'à 14-15% au Japon et en Italie. Cumulé sur 40 ans, il s'agit d'écarts considérables. On remarquera également que les pays qui épargnent le plus sont souvent ceux dont la population est la plus stagnante et la plus vieillissante, ce qui peut se justifier par un motif d'épargne en vue de la retraite ou de la transmission, mais que la relation est loin d'être systématique. Comme nous l'avons noté plus haut, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on choisit d'épargner avec plus ou moins d'ampleur, et il n'y a rien d'étonnant à ce que de multiples facteurs et différences entre pays, liés à la culture, aux perceptions de l'avenir et à chaque histoire nationale particulière, entrent en ligne de compte, de même d'ailleurs que pour les choix de natalité ou de politique migratoire, choix qui déterminent in fine le taux de croissance démographique. Si l'on combine les variations des taux de croissance et celles des taux d'épargne, on voit que l'on peut facilement expliquer pourquoi différents pays accumulent des quantités très différentes de capital et aussi pourquoi le rapport capital-revenu a fortement progressé depuis 1970. Un cas particulièrement clair est celui du Japon. Avec un taux d'épargne de près de 15% par an et un taux de croissance à peine supérieur à 2%, il est logique que le pays accumule à long terme un stock de capital de l'ordre de 6-7 années de revenu national. C'est la conséquence mécanique de la loi dynamique d'accumulation bêta égale S sur G. De même, il n'est pas étonnant que les États-Unis, qui épargnent beaucoup moins que le Japon et croissent plus vite, se retrouve avec un rapport capital-revenu sensiblement moins élevé. De façon plus générale, si l'on compare les niveaux de patrimoine privé en 2010 prédits par les flux d'épargne observés entre 1970 et 2010 et ajoutés aux patrimoines initiaux de 1970 et les niveaux de patrimoine privé effectivement observés en 2010, on constate pour la plupart des pays une grande proximité. La correspondance n'est pas parfaite, ce qui montre que d'autres facteurs jouent également un rôle significatif. Par exemple, nous reviendrons sur le cas du Royaume-Uni, où les flux d'épargne semblent nettement insuffisants pour expliquer le très fort accroissement des patrimoines privés au cours de la période. Mais au-delà des cas particuliers de tel ou tel pays, les résultats obtenus sont globalement très cohérents. Il est possible d'expliquer l'essentiel de l'accumulation du capital privé dans les pays riches entre 1970 et 2010 par les volumes d'épargne observés entre ces deux dates et de capital initial, sans qu'il soit nécessaire de supposer une forte hausse structurelle du prix relatif des actifs. Autrement dit, les mouvements des cours immobiliers et boursiers, à la hausse ou à la baisse, sont toujours dominants à court terme et souvent à moyen terme, mais tendent à se compenser à long terme, où les effets de volume semblent généralement l'emporter. Le cas du Japon est là encore emblématique. Si l'on cherche à comprendre l'énorme hausse du rapport capital-revenu pendant les années 1980 et la forte baisse du début des années 1990, il est évident que le phénomène dominant est une bulle immobilière et boursière qui se forme puis éclate. Mais si l'on veut comprendre l'évolution observée sur l'ensemble de la période 1970-2010, il est clair que les effets de volume l'emportent sur les effets prix. Le fait que les patrimoines privés japonais soient passés de 3 années de revenu national en 1970 à 6 années en 2010 est presque parfaitement prédit par les flux d'épargne. Les deux composantes de l'épargne privée. Pour être tout à fait complet, il faut préciser que l'épargne privée comprend deux composantes. D'une part, l'épargne réalisée directement par les individus privés, c'est la partie du revenu disponible des ménages qui n'est pas consommée immédiatement, et d'autre part, l'épargne réalisée par les entreprises pour le compte des individus privés qui les possèdent, directement dans le cas d'entreprises individuelles ou indirectement au travers de leurs placements financiers. Cette seconde composante correspond aux profits réinvestis par les entreprises, encore appelés profits non distribués ou retained earnings, et peut représenter jusqu'à la moitié de l'épargne privée totale dans certains pays, comme au Japon ou au Royaume-Uni. Voir tableau 5.2. Si l'on ignorait cette seconde composante, et si l'on prenait uniquement en compte l'épargne des ménages au sens strict, on conclurait dans tous les pays que les flux d'épargne sont nettement insuffisants pour rendre compte de la croissance des patrimoines privés, et que cette dernière s'explique pour une large part par une hausse structurelle du prix relatif des actifs, et notamment du prix des actions. Une telle conclusion serait exacte d'un point de vue comptable, mais artificielle d'un point de vue économique. Il est exact que le prix des actions tend à progresser plus vite que les prix à la consommation sur longue période. Mais cela s'explique pour l'essentiel par le fait que les profits réinvestis permettent aux entreprises en question d'accroître leur taille et leur capital. Il s'agit donc d'un effet volume et non d'un effet prix. Dès lors que l'on réintègre les profits réinvestis dans l'épargne privée, cet effet prix disparaît pour une large part. En pratique, du point de vue des actionnaires, les profits versés immédiatement sous forme de dividendes sont souvent plus lourdement taxés que les profits réinvestis. Il peut donc être intéressant pour les détenteurs du capital de ne se verser qu'une part limitée des profits en dividendes, en fonction de leurs besoins immédiats de consommation, et de laisser le reste s'accumuler et s'investir dans l'entreprise et ses filiales, quitte à revendre plus tard une partie des actions et à réaliser des plus-values, généralement moins taxées que les dividendes. Les variations entre pays concernant le poids des profits réinvestis dans l'épargne privée totale s'expliquent d'ailleurs pour une large part par les différences de systèmes légaux et fiscaux, et relèvent davantage de différences comptables que de véritables différences économiques. Dans ces conditions, le plus justifié est de traiter les profits réinvestis des entreprises comme une épargne réalisée pour le compte de leurs propriétaires et donc comme une composante de l'épargne privée. Il faut également préciser que la notion d'épargne à prendre en compte dans la loi dynamique bêta égale S sur G est l'épargne nette de la dépréciation du capital, c'est-à-dire l'épargne véritablement nouvelle, une fois déduite la partie de l'épargne brute servant à compenser l'usure des immeubles ou équipements, réparer un trou dans un toit, une canalisation, remplacer les matériels usagés, voitures, ordinateurs, machines, etc. La différence est importante car dans les économies développées, la dépréciation du capital atteint chaque année de l'ordre de 10-15% du revenu national et absorbe près de la moitié de l'épargne brute, qui gravite généralement autour de 25-30% du revenu national, d'où une épargne nette également de l'ordre de 10-15% du revenu national. Voir tableau 5.3. En particulier, l'essentiel des profits bruts non distribués sert souvent à maintenir en l'état les immeubles et équipements, et il arrive fréquemment que le reliquat permettant de financer l'investissement net soit très faible, quelques points de revenu national tout au plus, ou même négatif, si les profits bruts non distribués sont inférieurs à la dépréciation du capital. Par définition, seule l'épargne nette permet d'accroître le stock de capital. Compenser la dépréciation permet uniquement d'éviter qu'il ne diminue.